France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Mélanie Chalandon et Fanny Richer, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Samedi prochain, le 25 octobre, Alassane Ouattara se présente pour un quatrième mandat. Nous consacrons toute cette semaine à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao, une rente menacée. Et le président sortant essaie de soutenir la production. Ici, lors d'une conférence de presse, il y a 3 semaines.
Je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix du cacao bien séché et bien trié alors est fixé à 2800 francs le kilogramme.
Sampedo, de manière directe et indirecte, emploie de 50 000 à 400 000 personnes. C'est le port qui fait vivre la ville. Or, c'est le cacao qui fait vivre le port. Vous comprenez l'importance du cacao pour la Côte d'Ivoire.
Cette année, j'ai eu 3 tonnes. Avec une plantation de 11 hectares, je dois pouvoir avoir au moins 6 tonnes. Donc, j'ai perdu beaucoup. Moi, je me dis que c'est bon, c'est le changement climatique aussi, parce qu'il a plu beaucoup à un moment donné, et après, ça a cessé.
Il a plu beaucoup et après ça a séché, se désole ce producteur de cacao. Il faut voir à quoi ressemble un cacaoyer après plusieurs semaines de temps sec et caniculaire. Quelques feuilles jaunâtres, desséchées, galeuses, qui pendent avec des teintes d'oreilles de poitrinaire, comme dirait Jules Vallès, et des fruits, ces cabosses qui ressemblent à de grandes courges allongées, des fruits qui ont l'air de grenades chauffées à blanc, on dirait des apoplexies. Quand le changement climatique s'en mêle, tout devient désespérant pour les producteurs ivoiriens de cacao, dans un cycle infernal qui n'est pas sans rappeler celui des producteurs de tabac du sud des États-Unis dans les années 30, si bien raconté par Eskin Caldwell. Car même quand les conditions climatiques sont idéales, la déforestation a fini par totalement appauvrir les sols, le bois, quand il a repoussé, est inexploitable, dur comme de l'acier, on ne peut rien en faire. Et surtout, les coûts de production augmentent quand les revenus des producteurs, eux, sont pour ainsi dire plafonnés. Car en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui fixe les prix chaque année. Et on a entendu au début de cette émission le président Alassane Ouattara annoncer une hausse le 1er octobre. Un kilo rapporte désormais l'équivalent de 4,26 euros à son producteur, 2800 francs CFA. C'est à peu près ce qu'il coûte aussi ce matin à la Bourse de Londres, mais bien moins que ce qu'il coûtait hier, les cours des marchés mondiaux étant ce qu'ils sont. Comment vivent les 5 millions de personnes qui travaillent directement ou pas dans le cacao en Côte d'Ivoire? Comment expliquer que ce secteur occupe aujourd'hui une telle place dans l'économie nationale, 14% du PIB, avec quels conflits fonciers et quelles conséquences aussi sur l'environnement? On en parle avec nos deux invités qui sont tous deux en direct d'Abidjan. Bonjour Oscar Toukpo.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup monsieur d'être avec nous. Vous êtes sociologue à l'université Oufouette-Boigny d'Abidjan. Nous sommes également avec François Ruff. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes économiste, chercheur, vous avez très très longtemps et vous travaillez toujours sur la filière du cacao en Côte d'Ivoire. François Ruff, pour revenir d'abord sur cette hausse du prix du cacao payé aux exploitants, de tous les pays producteurs de cacao aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul à ce jour où les prix ne sont pas fixés par le marché, mais par l'État ?
Non, c'est le produit d'une vieille histoire, d'une longue histoire qui avait commencé au moment où la Côte d'Ivoire était encore une colonie française à la fin des années 50. Et c'était un mouvement assez général en Afrique de l'Ouest Et aujourd'hui, des pays comme le Cameroun et le Nigeria se sont libérés, entre guillemets, de cette tradition, mais pas le Ghana. Donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux grands pays producteurs aujourd'hui, sont toujours sous ce système de prix fixé par l'État.
Les colons français à l'époque qui avaient introduit cette mesure disaient que c'était pour que les planteurs travaillent dans un environnement stable, qu'ils soient à l'abri du marché mondial. C'était aussi un moyen de prélever de l'argent sur la production et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le cacao est une rente pour l'État ivoirien.
Oui, c'est un peu les deux. Mais je crois que les colons étaient sincères dans ce. Il y avait un vrai raisonnement d'économie. Quand le prix fluctue énormément, ça peut dissuader l'investissement. Mais ça ne s'applique pas vraiment au cacao, puisque le cacao, surtout quand il est défriché après forêt, demande du travail, mais peu de capital. Et ensuite, alors, au fil des années, effectivement, l'objectif de prélèvement sur la filière de taxation des producteurs de cacao est devenu prépondérant pour financer le développement du pays.
Est-ce que, Oscar Toubko, vous avez pu joindre les producteurs de cacao ou les revoir depuis cette annonce de la hausse des prix qui leur est accordée? Est-ce qu'ils vivent correctement? Est-ce qu'ils vivaient correctement sans ça? Et comment est-ce qu'ils ont réagi à cette mesure? Est-ce qu'ils trouvent que ça, c'est suffisant?
Okay, merci. Je pense que les paysans que j'ai eu la semaine passée, j'étais sur le terrain dans la zone de Divo que François connaît bien. Il faut dire qu'il y a eu de l'enthousiasme quant au prix de 2800 fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire que en fait, c'est un prix politique, il faut le dire, parce que peut-être qu'on reviendra là-dessus. Puisque l'année passée, le coût du cacao était sur le marché international était élevé. Mais contrairement à ce prix-là, le cacao était payé à 2200 francs. Bord champ au niveau de la Côte d'Ivoire. Cependant, cette année, il est moins de. Le prix est à moins de 5 000 francs, c'est ça, sur le marché international, mais cette année, il est fixé à 2800. Bon, donc, ils diront que c'est un prix qui est politisé, puisqu'il a tendance à amadouer les paysans en milieu rural, donc à ce qu'ils soient plus favorables à l'élection, donc à voter le président actuel. Donc, dans un premier temps, mais il faut dire aussi que dans un second temps, les paysans que j'ai rencontrés, donc il y a 3 à 4 jours de cela, n'ont pas encore reçu leur dû, en fait. Mmh. Parce que les coopératives ont tendance à dire que donc il y a plus de tracasserie au niveau des acheteurs, donc il y a plus de contrôle, ce qui fait que ces coopératives-là ont tendance à donner un petit forfait là aux paysans. Pour qu'ils puissent attendre le temps qu'ils puissent régler ce qu'il faut au port de Saint-Pedro.
Donc la hausse décidée et annoncée le 1er octobre n'a pas encore été répercutée immédiatement pour les producteurs, des producteurs qui dénoncent depuis longtemps des prix de toute façon trop bas par rapport à la hausse de leurs coûts.
Le sac de riz qu'on devait prendre pour nourrir nos travailleurs a augmenté. Les prix des vivres ont augmenté. Même nous-mêmes, nous payons nos propres produits pour traiter les champs. Tu te retrouves avec presque rien. Nous ne savons pas quel est le prix du marché mondial. Mais nous demandons au gouvernement d'ajouter sur le prix.
Un planteur de cacao rencontré par Julia Guggenheim et Damien Coffi pour France 24 en septembre 2024, donc il y a un an. Les producteurs qui sont également confrontés, François Ruff, à une baisse de leur production, et ça fait maintenant quelques années que ça dure. Alassane Ouattara s'en était rendu compte. Il y a 2 ans, vous l'aviez raconté dans un article, il avait appelé le directeur du Conseil du Café et du Cacao, le CCC, qui lui avait donné des raisons conjoncturelles, les pluies torrentielles de juillet 2023, ou plus récemment la contrebande de cacao vers les pays voisins, Libéria et Guinée en tête. Vous avancez, François Ruff, que les raisons, en fait, sont structurelles, sont observées sur le temps plus long.
Oui, les raisons conjoncturelles ont joué aussi, mais elles ont toujours été utilisées par les responsables de la filière, que ce soit en Côte d'Ivoire aujourd'hui ou il y a plusieurs années, ou au Ghana aussi, les transferts en contrebande par la frontière ont souvent bon dos. Oui, plus structurellement, parce que vous avez dit en introduction sur les effets de la déforestation, sur l'appauvrissement des sols, est quelque chose de structurel qui existe dans toutes les économies cacaoyères. Et une économie cacaoyère est dès son démarrage presque prédestinée à régresser à un moment ou à un autre par cet effet dévastateur d'une déforestation massive et souvent d'une monoculture stricte, ce qui est un peu le cas en Côte d'Ivoire, qui favorise l'arrivée des maladies, des insectes, etc. Et puis, ce que vous avez aussi évoqué en introduction, l'augmentation des conflits fonciers, il y a de plus en plus de monde, les migrations massives ont fait que la terre devient rare. Et donc, tout ça transforme le cacao, qui était au début une source de richesse, une source de développement, une opportunité formidable, en quelque chose qui devient une contrainte et une difficulté. Mmh.
Il se trouve qu'avec une association, avec une association François Ruff, la structure agricole de développement de Côte d'Ivoire, vous avez pendant 10 ans suivi la production d'une 50aine d'exploitations cacaoyères dans ce que vous appelez la boucle du cacao de Soubré, dans le centre-ouest. Donc la boucle du cacao, ça décrit une concentration de plantation et de production de cacao dans un pays à un moment donné. Et sur la période 2013-2023, vous dites que les relevés mensuels de production montrent une récession quasi continue dans le village de Kofikoua Diokro, des pertes de 40% par exploitation, 70% dans le village de Brahim Makro. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de taille d'exploitation qui diminue?
Non, ça c'est une idée courante. Les gens aiment bien penser que les exploitations sont trop petites et pas viables et qu'il faut des exploitations modernisées, grandes, avec des capitaux. Là, en fait, non. Une exploitation petite de 2 hectares peut allouer plus de travail à... Vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien. Nous sommes toutes oui. Oui, peut allouer plus de travail. Donc, c'est pas une question
de... Non, oui, c'est pas une question de taille, non. Franchement, j'ai des tas d'exploitations de 2 hectares s'en sortent beaucoup mieux que des exploitations de 10 ou 15 hectares qui n'arrivent plus à entretenir la totalité du champ. Mmh.
Vous parlez surtout de la mortalité des cacaoyers sous l'effet d'une maladie qui s'appelle le swollen shoot. C'est un virus qui vient comment, qui progresse comment?
Oui, il est transmis par un insecte qui s'appelle la cochenille, qui circule au ras du sol. Et le virus se propage par les racines et ensuite par les tiges. C'est une maladie a priori mortelle que la recherche n'a pas encore résolue. Et c'est une maladie qui remonte à un siècle, puisque les chercheurs britanniques étaient partis dans les années 40 en Amazonie brésilienne pour essayer de trouver des variétés résistantes, du moins des variétés vigoureuses, qu'ils ont ramenées au Ghana en espérant que ça allait aider les planteurs à replanter sur place et à avoir une cacao culture plus durable, même si le terme n'existait pas à l'époque. Mais non, les planteurs se sont servis de ce matériel végétal plus rigoureux, mais pas pour replanter dans les vieilles zones, mais pour aller défricher de nouvelles forêts et conquérir ces forêts pour étendre la cacaoyère du Ghana. Donc c'est toujours le même modèle. Pour des raisons techniques, environnementales et sociales, les planteurs préfèrent aller défricher une forêt et se créer une nouvelle exploitation que d'essayer de replanter sur l'ancienne.
Et c'est pour ça que l'érosion de la production dans les boucles du cacao comme Soubré ont pendant quelque temps été compensées par de nouveaux fronts pionniers du cacao. On va y venir, mais Oscar Toubko, comment cette région de Soubré s'est-elle progressivement convertie à la production du cacao jusqu'à devenir le grenier à cacao du pays, voire du monde, alors que dans les années 60, c'était une forêt tropicale avec moins d'un habitant au kilomètre carré?
D'accord. Et il faut dire que la culture de cacao, d'abord en Côte d'Ivoire, était cultivée dans l'est de la Côte d'Ivoire progressivement, avec l'immigration interne et externe, notamment l'immigration du nord de la Côte d'Ivoire, dans des pays frontaliers, du Burkina Faso et au niveau du centre de ce qu'on appelle communément les migrants, donc allogènes, allochtones, donc les Baoulés qui sont considérés comme des allochtones et les Burkinabé en grande partie qui sont considérés comme des allogènes, on peut progressivement migrer dans des zones forestières en vue de cultiver le cacao. Mais précisément dans la zone de Soubré, il faut dire que sous incitation de la fameuse phrase mais bon, qui a été attribuée à Oufou Boigny, mais qui n'est pas réellement le cas. François Ouf pourra le dire, qui disait en fait que la terre appartenait à celui qui la mettait en œuvre, donc la terre appartient à celui qui la met en œuvre.
En valeur, on en a parlé hier, en effet, c'est vrai.
Donc, et ça, je pense que ça a incité plus ou moins ces migrants, en grande partie baoulés, qui sont installés dans la zone de Soubré, qui sont considérés par certains même comme des autochtones, puisque aujourd'hui, dans cette zone-là, ces migrants-là ont une profonde connaissance même des limites foncières, pour ne pas dire des limites du territoire que certains autochtones. Donc, c'est toute cette histoire-là cette idée de la terre appartient à celui qui la met en œuvre. Donc, là, c'est ce qui a plus ou moins contribué à cette forte migration dans cette zone de Soubré-là. Donc, je pense que c'est en grande partie, par incitation politique aussi, parce que voilà, cela a été facilité aussi par les notables autochtones qui étaient le couloir de transmission du pouvoir au niveau local.
Donc, oui, c'est, ceux
qui, c'est ça. Donc c'est ceux qui facilitaient l'accès à la terre et plus ou moins étaient des démarcheurs, pour le dire, des facilitateurs d'accès à la terre. Et ceux-ci ont plus ou moins bénéficié aussi de rentes. Bon, c'est ce qui, en plus, associé à cela, je pense qu'il y a la question du tutorat aussi, qui a facilité aussi cela. Mais tout ceci est un mélange qui a permis l'installation de ces...
Il faut bien nous expliquer, Oscar Tukpo, il faut bien nous expliquer, parce qu'on est peu familier de ce contexte-là. Alors, pour bien comprendre, on attribue à Félix Houphouët-Boigny cette phrase en 63, « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Alors, on ne sait pas s'il l'a vraiment prononcée. En tout cas, c'est ce qui aurait déclenché, et c'est sa politique volontariste qui aurait déclenché une ruée vers les forêts et une série de coupes rases pour produire du cacao. Il y a à la fois les Burkinabés, donc du pays voisin, le Burkina Faso, qui, à l'époque, ont investi les régions, en particulier de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On en a beaucoup parlé hier, mais il y a eu aussi cette immigration interne, les Baoulés arrivés du centre du pays vers le sud et l'ouest avec le soutien du pouvoir. Félix Houphouët-Boigny était lui-même Baoulé. Est-ce que leur installation à eux, donc ces migrants internes, migrants ivoiriens, a fait l'objet des mêmes questions, des mêmes enjeux que celles des Burkinabés qui arrivaient en Côte d'Ivoire pour en travailler la terre et dont on a dit hier que leur intégration avait été plutôt facile à l'époque? Est-ce que c'est le cas aussi pour les Baoulés?
Oh oui, ok. Je pense que il y a toute une différence. Je pense que les travaux de Ruff montrent bien qu'il y a une différence parce que les Burkinabés, la migration Burkinabé dans un premier temps, je pense que ils étaient ce qu'on appelle les aboussentiers, donc des manœuvres dans les plantations, contrairement aux Baoulés qui se sont installés, comme je dis, par le truchement des notables et par le biais du tutorat, en grande partie, donc ont eu accès à la terre par le biais d'autochtones, mais par le biais du tuteur. Autochtones, donc des natifs, pour être plus précis.
Mais quel était leur rôle à ces tuteurs? Qu'est-ce que c'était ce principe de tutorat?
Ces tuteurs-là, plus ou moins, comme le définit un peu Jean-Pierre Chauveau, le tutorat, c'est une forme d'économie morale qui permet de plus ou moins à un migrant, donc un allogène, un allochtone, de pouvoir accéder à la terre, mais en contrepartie, il a des droits et des devoirs envers ce tuteur-là. Du coup, il a accès à la terre par une petite cérémonie traditionnelle, donc en donnant une bouteille de liqueur et autres. Donc, ce qui lui permettait d'avoir accès à cette portion de terre-là. Et progressivement, celui-ci faisait venir ses cousins ou bien ses frères du village, donc ce qui permettait plus ou moins de conquérir encore plus d'espace, ce qui augmentait la pression foncière. Mais cette personne-là, en retour, lorsque ce tuteur avait plus ou moins des difficultés ou bien avait des moments de joie, cette personne-là lui revenait en lui octroyant par exemple un poulet ou bien en lui faisant un don en argent comme en nature, donc ça dépendait un peu des rapports qu'ils avaient.
Des cadeaux symboliques, une aide ponctuelle, donc les Burkinabés avec ce principe de tutorat a priori ont été plutôt bien accueillis. Ça se passait pas trop mal, alors qu'avec les Baoulés, ça a été plus compliqué, très vite, des conflits fonciers, des litiges judiciaires. Vous avez aussi travaillé, François Ruff, sur ces questions. Vous dites que c'est aussi quand le pont de Soubré a été construit au-dessus du fleuve de Sassandra que les migrations massives ont pu commencer. Comment vous racontez cette histoire-là d'installation massive d'exploitants de cacao, de producteurs de cacao dans cette région de Soubré?
Oui, c'est presque mathématique. Si au lieu de traverser le fleuve en pirogue, vous pouvez le traverser en pont, sur un pont, ça ouvre la voie, c'est le cas de le dire, à des milliers et des dizaines de milliers de migrants. La conquête de l'Ouest ivoirien, à l'ouest de ce fleuve Sassandra, avait commencé avec les forestiers qui créaient des sillons dans la forêt, des pistes principales, retirer un ou deux ou trois arbres à l'hectare, et ils emmenaient donc avec eux leurs manœuvres, qui étaient souvent burkinabés, ou d'origine burkinabé. Donc il y a progressivement, dès les années 60, il y avait déjà une connaissance géographique, une connaissance des zones, et quand l'exploitation forestière a commencé déjà, selon les modules, dès la été de l'époque, à diminuer un petit peu, mais les manœuvres qui travaillaient dans le bois ont commencé à s'installer, à créer des pistes perpendiculaires et à appeler, comme vient de le dire mon collègue, appeler leurs frères, leurs cousins. Et donc là, oui, le pont, ça a été vraiment un multiplicateur d'investissement phénoménal.
Et vous racontez aussi comment, côté burkinabé, du côté de ceux qui quittaient le Burkina Faso pour venir s'installer en Côte d'Ivoire, comment s'est déroulé ce cycle du cacao. Il y a d'abord des habitants qui apprennent la possibilité d'améliorer leurs conditions de vie en allant travailler dans les cacaoyères en Côte d'Ivoire. Un pionnier s'installe, puis il revient ensuite au Burkina Faso, par exemple, il refait le toit de la maison de ses parents, il achète une moto. L'année suivante, ce sont 25 jeunes qui veulent tenter l'aventure à leur tour, et progressivement la forêt ivoirienne se transforme en machine à fabriquer de l'argent, sauf qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle les externalités émergent. À force de défricher, le milieu se dégrade. Quand est-ce que les premières conséquences s'en sont fait sentir, François Ruff?
Mais curieusement, quelquefois très tôt, parce que c'est très amusant de. Si vous consultez la documentation de la recherche, toute cette zone de Soubré, qui a été la grande boucle du cacao des années 90-2000, était considérée par certains chercheurs agronomes comme impropre au cacao, à cause de sols trop superficiels, trop pas assez profonds, je ne sais quoi. Et effectivement, les premiers migrants dans certaines zones, parce que là, c'est très diversifié, le sud-ouest, il y a des zones très favorables au plan des sols et des zones beaucoup moins. Donc, dans certaines zones, les premiers migrants, à peine arrivés, c'est-à-dire à peine 10 ans après leur arrivée, se sont confrontés à des baisses de production et se sont posé la question de comment réagir. Ils auraient pu encore partir vers une autre zone, faire une deuxième ou une troisième migration. Mais là, c'était trop tôt. Ils pouvaient pas amortir leur migration, si je puis dire. Et donc, ils ont cherché des solutions à eux. Curieusement, c'est assez amusant. C'est l'époque où la grande société de vulgarisation agricole dans la zone cacaoyère, qui s'appelait la Satmassi, était en train de disparaître, faute de moyens financiers. Et donc, c'est beaucoup les planteurs eux-mêmes qui ont cherché leurs solutions et qui ont fini par tomber sur l'engrais chimique. Et l'engrais chimique leur a, après, les commerçants se sont aperçus de l'intérêt, ont développé des filières, et Soubré est devenu, à partir de la fin des années 90, dans les années 2000, une zone de consommation énorme de l'engrais, qui ensuite a rayonné sur d'autres zones. Et donc, cette possibilité d'utiliser les intrants chimiques, il y a eu dans le même temps aussi une démultiplication énorme de la consommation d'insecticides, et puis ensuite des herbicides qui sont arrivés. Tous ces intrants chimiques ont permis de prolonger la durée de vie enfin c'est du moins mon interprétation, hein, de prolonger la durée de vie du cycle du cacao à Soubré, qui a duré 40-50 ans au lieu de 25-30 ans. Mais aujourd'hui, les planteurs sont, vous avez évoqué le terme externalité, hein, c'est-à-dire les dommages qui en sont causés à l'environnement, qui sont un temps payés par l'environnement lui-même, rattrapent les conditions de production du cacao. Donc les planteurs aujourd'hui souffrent énormément de la déforestation massive et des effets aussi néfastes de pollution sans doute, hein, des pesticides et peut-être d'excès d'engrais parfois, encore il faudrait le démontrer.
Ils souffrent de la déforestation. Alors quand, par ailleurs, d'anciennes boucles de cacao ne sont plus assez productives, beaucoup vont constituer de nouveaux fronts pionniers ailleurs et la déforestation ne s'est pas arrêtée. Le Bureau national d'études techniques et de développement a établi des cartes de la déforestation qui montrent les centaines de milliers d'hectares de forêts brûlées entre 2000 et 2015 alors qu'elles étaient censées être classées, d'où une sensibilisation qui existe en Côte d'Ivoire. Ce Fabrice Yao, par exemple, responsable durabilité d'une coopérative agricole, rend ici visite à un planteur. Il est interrogé par France 24.
Bonjour. Ça va le travail, ça avance?
Oui, ça va.
D'accord. Bon, on va faire le tour de ton champ encore. On va vérifier d'abord, on va voir c'est combien d'hectares. Et puis après aussi, on va voir est-ce que c'est pas une forêt classée et tout ça. Avec la nouvelle réglementation, tout cela est obligatoire pour toutes les coopératives, pour tous les producteurs de la coopérative. Donc si tu as une coopérative, tu as 1000 producteurs, tu dois le faire pour tous les 1000 producteurs. Non seulement 1000 producteurs, mais si tu peux avoir 1000 producteurs et avoir 1200 parcelles, puisque un producteur peut avoir 2-3 parcelles.
Est-ce que la question de la déforestation, Oscar Toukpo, est prise en compte et considérée aujourd'hui comme un problème en Côte d'Ivoire? C'est vrai que lorsqu'on parle de déforestation dans les grands sommets internationaux type COP ou sommet de la biodiversité, on parle surtout de l'Amazonie. Les forêts en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans quelle mesure sont-elles le plus possible protégées par les autorités?
Ok, il faut dire que aujourd'hui la déforestation aujourd'hui pose un problème à la Côte d'Ivoire, donc à plusieurs niveaux. Mais je pense que le premier niveau c'est la politique de zéro déforestation de l'Union européenne aujourd'hui, qui fait que le Conseil Café Cacao aujourd'hui a élaboré des cadres de planteurs et aussi les coopératives en interne essaient de répertorier, comme on l'a vu dans le reportage là, essaient de répertorier les différentes plantations des paysans, puisque cette politique-là évoque le fait que le cacao ne doit pas provenir des zones déforestées après 2020. Et du coup, la difficulté que ça pose, c'est qu'en grande partie, comme l'a démontré plusieurs rapports d'ONG, le cacao ivoirien aujourd'hui est produit à 40%, provient à 40% des forêts classées et est protégées. Cela a été facilité par les différentes crises qu'a vécu la Côte d'Ivoire depuis 2002. Et après, à partir de 2011, il y a eu une forte migration dans ces forêts-là, notamment dans l'ouest ivoirien. Donc, nos travaux l'ont démontré, hein, que ces forêts-là ont été en grande partie investies par une forte migration burkinabé, mais qui avait trouvé sur place une migration de migrants baoulés, qui étaient plus anciennement installés. Et avec cette nouvelle migration-là, ça a contribué à une forte déforestation, mais ces personnes-là, pour s'installer, ont dû avoir une caution soit du chef de guerre, bien soit d'autochtones qui étaient restés sur place, qui ont facilité l'accès à ces espaces-là. Puisqu'à un moment donné, l'État n'était pas présent dans ces espaces-là. Ces espaces, en grande partie, se retrouvent dans ce qu'on appelle les zones CNO, soit en zone gouvernementale ou bien en zone non gouvernementale, mais soit à ce qu'ils appellent dans un premier temps les zones tampons, ensuite qui est devenue la zone de confiance, et c'était un peu une zone de non-droit. Donc, ce qui a facilité un peu plus ou moins l'installation de ces personnes, de ces paysans aujourd'hui, bon, qui plus ou moins par des stratégies arrivent à faire sortir le cacao aujourd'hui. L'État ivoirien, face à cela aujourd'hui, a essayé de transformer ces espaces forestiers là en agroforêt. Donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a plus de 80 arrêtés ou bien ministériels, ou le 80
projets d'agroforestier pour des forêts.
Oui, 80 projets d'agroforêt, notamment il y a les trois premiers agroforêts dans l'ouest ivoirien, notamment dans la zone des Soubré, dans Rapide Gras, Haute Dodo et la forêt des Sio dans l'ouest. Aujourd'hui, sont dû investis par le projet d'investissement forestier du PIF, donc de la Banque mondiale, aujourd'hui qui essaie de mettre en œuvre ce projet d'agroforêt là, mais qui commence tout doucement avec quelques difficultés. Donc, puisque aujourd'hui, ça soulève encore la question des migrations et la question de l'autochtonie, de qui a droit à la forêt, qui a le droit de rester, qu'est-ce qu'il doit payer, quel est le prix à payer pour rester dans la forêt.
Donc, c'est difficile à mettre en œuvre. On estime que sur ces 80 forêts qui font l'objet d'un projet de reforestation ou d'un projet agroforestier, seuls 3 aujourd'hui sont vraiment en train d'être transformés. C'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. François Ruff, l'Union européenne va imposer bientôt une nouvelle réglementation pour interdire l'importation de produits issus de la déforestation. En même temps, on sait par exemple qu'au Brésil, il est très difficile de tracer l'origine du bœuf, en l'occurrence, et de savoir si la viande importée a pu paître dans l'un de ces élevages extensifs qui a ravagé une partie de la forêt amazonienne. Il y a une pratique au Brésil qu'on appelle blanchiment de bétail. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est facile de tracer le cacao? Est-ce que le fait que l'Union européenne élabore de nouvelles règles en disant pas de produits issus de la déforestation, ça peut changer quelque chose en Côte d'Ivoire?
Mais on voudrait le croire, parce que sans doute ça part d'un bon sentiment, cette réglementation, mais elle a quand même été conçue à Bruxelles, très loin des réalités du terrain. C'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais enfin, tous ceux qui connaissent le cacao savent très bien que la traçabilité est encore largement un mythe. C'est presque un, pour abuser un peu sur les termes, je m'en excuse, mais c'est presque un sport national pour les dirigeants de coopératives. La liste des membres de coopératives est très floue. Si vous faisiez vraiment un audit sérieux et indépendant des listes de membres, vous vous apercevriez qu'il y a un certain nombre de planteurs qui sont décédés, qui continuent à vendre du cacao, et un certain nombre de planteurs complètement inconnus dans le village qui continuent à vendre du cacao.
Et qui votent peut-être aussi.
Il y a des échanges entre coopératives. Mmh. Oui, ça c'est possible, je ne sais pas. Mais donc il y a une grande... Les coopératives peuvent jouer sur l'origine de leur cacao parce qu'elles bénéficient sur le barème de la tonne kilométrique, donc elles disent qu'elles sont allées chercher le cacao un peu plus loin. Donc tout ça paraît ce qu'on appelle les certifications, les standards de cacao durable font l'objet de discours très très sympathiques et très généreux, mais dans la réalité sont presque inexistants. En tout cas, une très grande partie des primes de certification n'arrivent jamais aux planteurs. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés d'allouer ces primes à d'autres planteurs, à d'autres noms, pour avoir des listes avec des tampons qui fassent sérieux. Donc cette traçabilité est encore une large blague. Voilà.
Vous parlez notamment, François Ruff, dans les zones de collecte où le cacao est aujourd'hui moins facile à produire. Les acheteurs et coopératives compensent le manque de cacao avec des réseaux de pisteurs et de camions qui viennent des nouvelles boucles de cacao, et parfois dans les zones classées, avec des sacs de cacao transbordés d'un camion à l'autre rapidement et de nuit, de préférence. On n'a pas évoqué peut-être le degré au-dessus encore de ce trafic de cacao, de ce grand manque de transparence qu'il y a autour de la filière. Oscar Toukpo, c'est la question de la contrebande. Vous l'avez très rapidement évoqué hier, la contrebande de cacao, les bandits du chocolat ou du petit déjeuner, puisque tout café et cacao sont liés dans cette institution que vous citiez tout à l'heure, le CCC. Comment mesurer ce trafic, Oscar Toukpo? Est-ce que c'est automatique que parce que les prix du cacao sont fixés par l'État, les producteurs ivoiriens se tournent plutôt vers la contrebande censée proposer des tarifs de rachat plus élevés?
Oui, je pense qu'avant de répondre à ça rapidement, j'aimerais revenir sur ce que François Ruff a dit, là, parce que par rapport aux différentes certifications du cacao, là, je pense que c'est un élément important pour comprendre un peu l'enjeu actuel de la politique de l'Union européenne. Il faut dire que cette certification, aujourd'hui, normalement, ces paysans doivent recevoir en retour une prime, mais qui n'est pas réversée à ces paysans-là. Tout ça, je pense que ces éléments concourent plus ou moins à la contrebande, parce que il y a des paysans fictifs qui sont créés par les coopératives, ou bien il y a même des plantations qui n'existent pas dans la localité. Il y a même de vieilles plantations, bien de ce qu'on appelle les jachères, qui sont répertoriées par les coopératives comme les plantations. Et du coup, il y a un déversement du cacao des aires protégées ou bien des forêts classées venues d'ailleurs qui comblent ces manques-là. Il y a même souvent des superficies qui vont, la production qui va au-delà de la superficie prévue, tout ça, par rapport au tonnage, encore une fois, on connaît pratiquement la production par hectare et par tonnage, mais plus souvent, les coopératives essaient de jouer plus ou moins, essaient de trouver des stratégies pour contourner un peu tout ce qui est
mis en œuvre.
Par rapport à la contrebande, il faut dire rapidement, que c'est pas nouveau, la contrebande. Parce que depuis, je pense que des années 80, 90 et autres, je pense que la contrebande se faisait au niveau de la frontière du Ghana. Je pense que vers Béti et autres, là, ça se faisait. Donc, les planteurs Agni qui étaient dans cette localité, en fonction du prix qui était fixé en Côte d'Ivoire, essayaient de vendre le cacao produit en Côte d'Ivoire dans cette zone-là. Et même actuellement, ça continue toujours. Donc, mais ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que c'est la contrebande un peu du cacao des forêts classées qui se fait par les frontières du Libéria et de la Guinée aujourd'hui.
Le Libéria qui est vraiment juste à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Oui, et même, je pense que le centre de travail Médéouf montrait que avant c'était pas le cas, plus que moi, c'est plus ou moins le cacao libérien qui était transversé un peu dans le cacao ivoirien, mais maintenant avec la hausse des prix, c'est plutôt le cacao de ces zones frontalières qui est transversé un peu dans le cacao pour libérien. Ce qui augmente un peu la production de ces pays-là, contrairement à ce qui se faisait avant.
Vous expliquez dans vos travaux, Oscar Toukpo, que pendant longtemps, la contrebande s'est opérée par la corruption des agents de douane, mais que après l'arrestation d'un gros convoi il y a 2 ans, les contrebandiers ont changé de tactique. Ils passent par les pistes et la brousse, par de petites motos, comme ce trafiquant de cacao entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, qui s'appelle Alfred, et qu'a rencontré Nathalie Hérault pour un documentaire diffusé sur Arte.
Moi, j'ai besoin d'argent pour pouvoir nourrir ma famille, mais il n'y en a pas. Et si on vient me proposer une somme pour pouvoir traverser le cacao pour aller vendre, moi, je vais le faire.
On peut traverser
100 sacs, 2 tonnes, 3 tonnes.
Par jour?
Oui. Les grandes frontières, on traverse plus que 3 tonnes, plus que 2 tonnes. C'est un business. Si on me fait traverser un sac à 5 000, que j'ai 2 tonnes, imaginez combien je gagne.
Un sac à 5 000 francs CFA, ça fait 7,50 euros à peu près. Ce contrebandier, en un seul passage, peut gagner jusqu'à un mois de salaire moyen ivoirien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Oscar Toukpo, sur ces contrebandiers? Qui sont-ils? On dit qu'il y a parfois d'anciens membres des forces nouvelles de Guillaume Soro qui n'ont pas été réintégrés dans l'armée. Mais il y a aussi des autochtones. Mais encore faut-il connaître bien quand même le Libéria, connaître la langue. Qui sont les contrebandiers du cacao vers le Libéria?
Oui, je peux dire que les contrebandiers, c'est ce que vous avez dit là, il y a des autochtones de la localité, des zones frontalières, notamment de tous les pleux, bien des Giglo et autres. Et aussi, il y a ces barons-là, ce qu'on appelle les barons du cacao, dans l'Ouest ivoirien, notamment des chefs de gars ou bien des responsables de coopératives qui ont noué des contacts au Libéria. Je pense que les travaux de Rouf éclairent bien sur la question, parce que de François Rouf éclairent un peu sur la question, parce que il y a eu, avec les différentes crises là, il y a eu des liens de parenté qui ont été renforcés, et de part et d'autre, du coup, on a des Burkinabés qui sont installés au niveau du Libéria, qui comprennent quasiment les langues locales, donc ce qui leur permet de pouvoir traverser et communiquer facilement avec ceux du Libéria. Aussi, il y a les autochtones aussi qui ont des parents, puisque ce sont les cousins, ce sont les mêmes langues, c'est la même langue qui est parlée de part et d'autre, donc ça leur facilite un peu plus ou moins la communication et facilite un peu le circuit, bien la circulation du cacao dans cette zone-là. Donc, pour dire, ce sont des personnes qui ont une profonde connaissance des pistes, des mécanismes de contournement officiels, des voies officielles.
Alors, vous nous disiez, François Rive, tout à l'heure, que pour vous, néanmoins, cette contrebande reste assez marginale et ne peut pas expliquer à elle seule la baisse des chiffres officiels de production de cacao. Et on arrive bientôt à la fin de cette première partie. Vous parliez tout à l'heure des maladies dont sont atteintes de très nombreuses plantations de cacaoyers, le swollen shoot. Quels sont les facteurs humains des producteurs qui se tournent soit vers la contrebande, mais soit vers d'autres cultures, ce qui paraît quand même un peu plus massif.
Oui, mais bon, la contrebande, pour en dire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Oscar Toukpo, à la base, c'est le différentiel entre le cours mondial et le prix fixé par l'État qui génère une activité. Les gens ont besoin de nourrir leur famille et ça génère une inventivité formidable. Je trouve cette activité économique aux frontières assez, assez remarquable. Ça montre la capacité d'innovation des villageois, un peuple formidable, la Côte d'Ivoire. Mais ça va pas toujours dans le sens des intérêts de l'État. Voilà. Bon, c'est parce que l'État, quelquefois, est trop gourmand. Mais ça va s'arrêter là, puisqu'avec le prix à 2800 francs et le cours mondial qui descend, les intérêts, les incitations financières à à faire bouger le cacao vers le Libéria, la Guinée, le Burkina Faso et même le Nigeria, je crois. Ça va s'arrêter là pendant un moment.
Deux mots vraiment, s'il vous plaît, sur la façon dont les producteurs se tournent vers, se convertissent vers les VA par exemple, avec lesquels on produit le caoutchouc, les palmiers à huile et autres. Voilà.
Oui, alors voilà, quand un planteur échoue dans sa replantation de cacao une fois, deux fois, et il se dit qu'il faut qu'il essaye autre chose. Et donc là, une des grandes activités de diversification a été l'EVA, et toujours l'EVA, avec une dynamique formidable de ce pays, puisque moi, à un moment, je pensais que l'explosion, le boom du caoutchouc, le boom de l'EVA allait se payer durement et rapidement par une baisse de production de cacao qui a mis du temps à se réaliser. Pendant plusieurs années, le cacao et le caoutchouc ont progressé de concert, ce qui prouve une capacité d'innovation et de travail formidable dans ce pays. Mais à côté de l'EVA et dans une moindre mesure du palmier, il faut aussi mentionner quelque chose qui n'est pas très politiquement correct, qui est l'orpaillage. L'orpaillage attire, d'ailleurs ça va faire le pont sans doute avec la séance suivante sur le travail des enfants. L'orpaillage attire énormément de jeunes puisqu'ils sont payés beaucoup mieux que sur le cacao. C'est encore plus grave au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique que l'enfoncement de la production au Ghana est... La baisse de production au Ghana est encore plus rapide qu'en Côte d'Ivoire.
Dans la région d'Abengourou, en Côte d'Ivoire, François Rey, vous êtes allé voir des planteurs de cacao, en tout cas qui se présentent comme tels, mais pour qui le cacao n'est plus que la quatrième source de revenus après l'or, l'EVA et les locations de maisons. C'est-à-dire, ils font Airbnb. Qu'est-ce que c'est que ces locations de maisons qui compensent l'activité de la baisse de production?
Ça rejoint leur paillage. Vous avez les empailleurs sont beaucoup des étrangers, c'est un peu comme dans le cacao, et donc il faut qu'ils se logent. Donc les autochtones, les Anis et les migrants qui sont installés depuis plusieurs années construisent des maisons pour les mettre en location. Donc les revenus de location sont très liés à leur paillage.
Merci beaucoup. Alors François Rufos Kartoukpo, vous restez avec nous parce que nous devons joindre Ladji Bamba, un chercheur qui doit nous parler du travail des enfants dans les plantations de cacao. Pour l'instant, nous n'arrivons plus à le joindre. Alors je vous en prie, restez avec nous. On écoute en attendant un petit morceau d'Alpha Blondie, Café Cacao 1991. Buy it, buy it, buy it, buy my cocoa now. Café Cacao, une chanson d'Alpha Blondie de 91, mais lui disait assez récemment dans un entretien dans le journal ivoirien Fraternité Matin, je suis encore dans cette mouvance de promouvoir le cacao, de rappeler aux dirigeants et aux jeunes que c'est notre richesse, notre bénédiction, et qu'il faut donc en prendre soin. Le cacao, une rente aujourd'hui menacée, c'est le troisième épisode de notre série à la Côte d'Ivoire tout entière consacrée, d'où la décision qu'a prise Alassane Ouattara, président sortant, qui se présente pour un quatrième mandat à l'élection de samedi. Le 1er octobre, il annonçait une hausse du prix auquel le cacao est racheté aux producteurs par l'État. Des mesures sont prises aussi depuis quelques années pour éviter le travail des enfants.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le petit, là, Rodrigue, il a 11 ans.
Oui, il a 11 ans.
C'est pas un peu jeune pour travailler comme ça avec une machette?
Non, c'est pas bon. Je vois que c'est pas bon, mais on va faire quoi, moi? Faut qu'on se débrouille comme ça.
La loi en Côte d'Ivoire, les enfants n'ont pas le droit de travailler.
On n'a pas le droit de travailler, je vois.
Mais vous le faites quand même?
C'est pour débrouiller, pour payer l'air, l'école.
C'est pour payer leur école, dit à France Info ce planteur qui a fait travailler son fils de 11 ans. Il est loin d'être le seul en Côte d'Ivoire. De très nombreux mineurs travaillent pour aider leurs parents dans les petites exploitations familiales. D'autres, en revanche, sont victimes de trafic et de traite. Bonjour, Ladji Bamba. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. À vous. Je suis avec vous.
Eh ben, on est très content de vous entendre. On n'arrivait pas à vous joindre tout à l'heure. Vous êtes depuis Abidjan. Si jamais la liaison ne marche pas très bien, Oscar Toukpo et François Rive sont encore avec nous. Vous êtes criminologue, Ladji Bamba. Vous êtes maître de conférence à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'abord, en Côte d'Ivoire, dans quelle situation le travail d'un enfant dans une plantation de cacao est considéré comme quelque chose, disons, de normal?
D'abord, bonjour à vous. Merci de me faire l'honneur de passer sur votre chaîne. Pour répondre à votre question, il s'agit tout simplement de voir le travail des enfants dans le contexte un peu afro-culturel. Parce que, comme on le dit si bien, les conceptions à travers le monde entier sont vraiment différentes. La conception du travail des enfants en Occident n'est pas forcément la même conception que le jeune. Bien, en fait, la population africaine, particulièrement la population ivoirienne, voit. Je prends un exemple très simple. En Europe, voir un petit garçon peut-être de 10 ans porter un fardeau sur la tête, voir une bûche de bois sur la tête, peut être considéré comme un travail agricole. Mais dans le contexte socio-économique ivoirien, c'est un travail éducationnel, c'est un travail dans le sens où l'enfant ici apporte une aide familiale. Donc, quand on rentre dans ce contexte, lié aussi aux définitions des conventions sur le travail des enfants, de façon, je peux dire, généraliste, on peut considérer ça comme le travail des enfants. Mais il faut faire vraiment une nuance. Et cette nuance ici, c'est de tenir compte des réalités culturelles
Oui, on vous entend pas très très bien, mais on va s'accrocher, Ladji Bamba, parce que c'est intéressant. Surtout, c'est sûr que pour des oreilles françaises comme les nôtres, ou francophones, ou occidentales, je sais pas comment le dire, c'est étrange d'entendre parler du travail des enfants comme quelque chose de normal, mais on entend dans la façon dont vous le dites que c'est considéré comme, il y a cette idée de transmettre un savoir-faire pour peut-être un jour reprendre l'exploitation familiale. On parle aussi du développement de l'enfant, mais ces enfants ont un statut d'ouvrier salarié ou pas du tout?
Comme je me répète encore, ce n'est pas un mini salarié. Vous m'entendez?
Ah oui, mais comme on vous entend mal, je ne l'avais pas entendu. D'accord, donc ce n'est pas un travail salarié, ils viennent aider leurs enfants, mais est-ce que c'est en plus, leurs parents, pardon, mais est-ce que c'est en plus d'aller à l'école ou travailler là les en empêche d'aller à l'école?
Vous avez fait passer une petite séquence là où le parent a dit que l'enfant travaille pour pouvoir le scolariser. La petite séquence du planteur qui a donné rapidement l'exemple. Généralement, quand les enfants travaillent, et puis très souvent les travaux des enfants se font pendant les vacances. Les vacances, les enfants vont accompagner les parents dans les champs, dans les travaux champêtres, tout simplement pour avoir un petit pécule pour accompagner le parent dans la scolarisation, pour la plupart du temps. Mais nier aussi le fait qu'il y a des enfants qui travaillent dans un système de trafic, ça, le nier, c'est faire preuve de mauvaise foi. Ce phénomène existe comme bien ailleurs, hein, mais simplement, je crois que ce sont des mesures idoines, tant au niveau international qu'au niveau local, qui peuvent vraiment contenir ce type de phénomène.
Le droit international, enfin l'Organisation internationale du travail définit par exemple des activités considérées comme dangereuses, porter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou des engrais, couper des arbres, tout ça, ça en fait partie. Et on se sert aussi d'outils comme la machette dans les exploitations de cacao. Donc tout ça est un vaste débat et on entend bien qu'il faut faire la distinction entre les enfants qui travaillent avec leur famille, avec leurs parents, en plus d'aller à l'école, même si dans la région de Soubré, dans le centre-ouest, où vous avez également fait votre travail d'enquête en 2017, beaucoup de communautés n'ont toujours pas d'école et il y a une pénurie massive d'enseignants qualifiés, la Djibamba, mais c'est encore un autre sujet. Est-ce que, comme on sait, la part très importante de l'agriculture dans l'économie ivoirienne et les conditions de travail difficiles des producteurs qui, on le disait, sont payés à des prix fixes, fixés par l'État ivoirien et relativement bas, est-ce qu'il y a une forme de ressentiment sur le thème « si l'État nous aidait davantage, on n'aurait pas à faire travailler nos enfants »
Un sentiment de ressentiment, non, je ne crois pas. Je me dis que c'est plus ou moins un sentiment de collaboration entre l'État et les planteurs. Parce que dans cette réalité, les vergers très souvent du cacao, du café, sont des vergers de famille. Ce sont des vergers, je peux dire, qu'on appelle de privés. Et généralement, en Côte d'Ivoire et en Afrique, il est souvent difficile de voir certains agriculteurs, compte tenu du fait de leur niveau bas éducatif, au niveau scolaire, de pouvoir faire une bonne gestion. Donc l'État s'implique à leur côté pour les aider au niveau de la gestion même de leurs finances, en fixant des prix au cacao, en les aidant à avoir des produits phytosanitaires et en aidant ses parents à mieux contrôler le travail des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a des tests qui sont pris pour faire l'obligation au lieu de la scolarisation du petit enfant jusqu'à l'âge de 16 ans.
Voilà, il y a des lois qui ont été prises, notamment en 2016. En revanche, la traite existe. Des enfants qui ne travaillent pas avec leurs parents, mais au profit de réseaux de trafic qui les dépassent. Quand vous avez mené votre enquête de terrain à Soubré en 2017, est-ce que vous avez constaté un phénomène massif? Et d'où viennent les enfants qui travaillent contre leur gré dans ces exploitations?
Au cours de mon enquête, je n'ai pas pu objectivement démontrer que les enfants travaillent sur la pression. Au contraire, les témoignages qui me reviennent, pour la plupart de mon échantillonnage, les enfants disent qu'ils vont pour aider leurs parents, pour que les parents les aident à leur scolarisation. Voilà ce qui ressort du terrain.
Oui, mais vous êtes criminologue, donc vous avez quand même travaillé sur la traite et les trafics. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots?
Sur le trafic, effectivement, puisque le trafic, généralement, c'est une trajectoire par laquelle des individus verrus pour des gains personnels passent par des systèmes de camouflage pour faire rentrer des individus d'un état à un autre, ou bien des individus sur le même état d'une région à une autre région. Et dire que ce phénomène n'existe pas, je m'inscris en faux. Il existe bel et bien. Mais à ce niveau, il faut dire qu'il y a certaines mesures de contrôle qui sont mises en place pour pouvoir un peu contrarier le phénomène. Parce que c'est un phénomène tellement historique, tellement ancien, entre plusieurs communautés et plusieurs États, que vraiment il faut le prendre à bras le corps.
Et un phénomène qui inquiète aussi le Burkina Faso face aux voisins qui disaient en 2010 déjà que près de 600 enfants avaient été victimes de traite cette année-là, 1270 l'année suivante, 1900 en 2012, donc ça n'avait fait qu'augmenter. Je vous remercie beaucoup, la Djibamba, d'avoir été avec nous, criminologue, maître de conférence à l'université Oufouette-Boigny d'Abidjan. Tous nos invités aujourd'hui étaient en ligne depuis Abidjan, Oscar Toukpo, sociologue à cette même université Oufouette-Boigny, et François Ruff, économiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Avec vous, Camille Marigot. On en parlera la semaine prochaine dans Culture Monde. À Madagascar, après plusieurs semaines de manifestations et un coup d'état militaire, un nouveau Premier ministre a été nommé.
Le suspense est levé depuis le début de la semaine, lit-on dans les pages du Midi Madagascara. Erin Salama Rajaonarivelo prend les rênes du gouvernement et face à lui plusieurs priorités. Des coupures d'électricité à l'accès à l'eau potable en passant par l'assainissement du climat des affaires pour stimuler la relance, liste le quotidien malgache et qui précise que plusieurs noms avaient circulé. Celui d'un ancien ministre de la Justice reconnu pour son intégrité ou encore celui d'un éminent juriste. Mais le colonel et nouveau président président a finalement opté pour un profil issu du monde économique. Rajao Narivelo a été président du conseil d'administration de la principale banque du pays, mais aussi du groupement des entrepreneurs malgaches. Il maîtrise les arcanes de la finance et des bailleurs de fonds. Et selon plusieurs observateurs cités par Le Quotidien, cette décision répond aux exigences du moment, car selon l'un d'eux, à Madagascar, tout est urgent, important face à l'extrême pauvreté. À partisans, sans ennemis politiques, il semble donc cocher toutes les cases, de quoi répondre aux attentes des manifestants qui ont provoqué la chute du précédent pouvoir, mais aussi des élites malgaches et des investisseurs étrangers, résume Jeune Afrique, ajoutant que pourtant ce nouveau Premier ministre, en apparence consensuel, est déjà contesté par la génération Z, une jeunesse amère qui dénonce une décision prise sans concertation et qui redoute une confiscation de sa révolution, résume Africa News. La Tribune de Madagascar ajoute que Rajao Narivelo est aussi déjà critiqué pour sa proximité avec des hommes d'affaires devenus politiques dans un système où la frontière entre l'État et les intérêts privés n'existe plus. Autant de faiseurs de rois qui ont l'expérience du jeu politique malgache et qui sont déjà en train d'éclipser peu à peu la Gen Z, note la Tribune de Madagascar dans l'un de ses éditoriaux.
Au Maroc, cette fois Camille, le roi Mohamed VI répond aux manifestants.
Santé, éducation, lutte contre la corruption, le royaume a l'heure des annonces, titre Jeune Afrique. Après le mouvement de contestation du collectif Gen Z 212 contre la défaillance des services publics et la corruption au Maroc, le pouvoir monarchique tente d'éteindre l'incendie par une salve de réformes annoncées en urgence la semaine dernière, commente le site afrique.com. Réponse implicite aux tensions sociales, explique plus pudiquement le site marocain Le Desk. Souvent présent dans les slogans, le roi n'a jusqu'ici jamais réagi frontalement, notre Jeune Afrique, c'est chose faite avec plusieurs projets de loi et un budget colossal pour les secteurs sociaux. Mais aussi une riposte institutionnelle poursuit Jeune Afrique avec un texte qui impose plus de rigueur comptable et de démocratie interne aux partis politiques. Un autre concerne les prochaines législatives, exclusion des candidats condamnés, sanctions renforcées contre la fraude. L'autre but étant de réinjecter du sang neuf dans le champ politique en facilitant les candidatures des moins de 35 ans, notamment. Le mouvement citoyen salue avec prudence toutes ces annonces, mais la vigilance reste de mise, relate le site marocain Express, qui évoque la persistance de dinosaures partisans qui s'accrochent là aussi au pouvoir et qui tuent l'espoir. Mais ces réformes tombent surtout comme un rideau de fumée sur des condamnations judiciaires lourdes contre ces manifestants, rappelle Afrique.com, jusqu'à 5 ans de prison pour certains. Et la libération de tous les détenus d'opinion est attendue comme un test du sérieux de l'État et une condition sine qua non pour restaurer la confiance et construire un avenir commun, explique Express.
Et ce qu'on appelle, ce que les médias appellent la génération Z, petit abus de langage, mais c'est pas grave, elle veut sa place au sein des musées et des galeries d'art.
Nous sommes juste à côté de la Tête Moderne, institution d'art contemporain à Londres, près d'une grille, un coffre-fort. Saisissez le code, vous y trouverez une carte de membre du musée qui donne un accès gratuit aux expositions temporaires. Vous en profitez, puis vous la remettez dans le coffre. Un projet collectif un peu clandestin, un peu punk, décrit l'un des initiateurs interrogé par le Guardian. Né il y a 3 mois, il compte plus de 600 membres, surtout des artistes et des jeunes diplômés qui ont économisé des milliers de livres sterling en frais d'entrée, de quoi mettre en colère plusieurs institutions artistiques de la ville, même si la directrice de la Whitechapel Gallery reconnaît l'importance pour les artistes précaires d'aller voir des œuvres. Au-delà de cela, le monde de l'art s'interroge aussi. Assiste-t-on à la mort lente des galeries d'art, se demande le Financial Times. De Londres à Paris, les foires d'art contemporain s'adressent encore en ce moment à des milliers de visiteurs fortunés. Mais les pressions économiques et la concurrence en ligne menacent le modèle des galeries physiques et une grande partie du secteur semble aujourd'hui obsédée par la façon d'attirer les plus jeunes collectionneurs et cette fameuse génération Z, raconte le Quotidien économique britannique. Le secteur expérimenté s'adapte avec des prix plus raisonnables et face à une attention moins longue du public face aux œuvres. Attirer des jeunes à un vernissage avec de la bière gratuite, aucun problème, remarque un galeriste. Il s'agit plutôt de raviver la passion des plus âgés. Alors qu'aujourd'hui, la mode est à la galerie éphémère, itinérante, installée à l'arrière d'un vélo qui porte un pissenlit géant gonflable, par exemple. Nous faisons déjà le pari de l'économie de l'expérience, assure un galeriste. Nous ne devrions pas avoir peur, ajoute son collaborateur qui a pourtant ses limites. Face à cette génération Z, vous ne me verrez pas danser sur TikTok pour attirer les foules dans ma galerie.
Merci beaucoup Camille Marigot.